Et de retour à Delirium Environnemental, le magazine d'information en environnement. Je vous le redis encore parce que ça me semble important. Vous pouvez toujours aller voir et réécouter en ligne les émissions, donc en ligne, je veux dire, sur Internet, au www.radiodelirium.net. Donc, le sujet, le dossier de la semaine, cette semaine, c'est la question de la responsabilité sociale des entreprises. C'était à propos pour plusieurs raisons. Entre autres, parce que qui dit responsabilité sociale des entreprises, à mon sens, dit gros bon sens de vivre en collectivité. Mais bon, c'est une question d'éducation, peut-être. Mais c'est surtout en rapport avec cette surutilisation et ce galvaudage, je sais pas si on peut dire ça, mais je le dis, du terme développement durable. Et moi, le marketing environnemental, de plus en plus, je trouve que c'est un danger, ça devrait être interdit, il devrait avoir des peines d'emprisonnement pour ça. Mais je suis peut-être un peu radicale. Alors donc, on a voulu recevoir des étudiants, on a reçu des étudiants de l'Université du Québec à Montréal, plus particulièrement de l'Institut des sciences de l'environnement. Ben oui, c'est notre gang, ça, voulez-vous. Donc, dans le cadre du défi des 1000, ça nous en prenait beaucoup. Trois de ces étudiants-là viennent de la chaire qui s'appelle maintenant, c'est une chaire de recherche, un groupe de recherche qui travaille sur la question de la responsabilité sociale et le développement durable. Comme c'était d'à propos. Et j'ai nommé, commençons par les dames, Julie Moret, René Audet, Patrick Laprise, donc ça, c'est ceux qui travaillent avec cette chaire de recherche-là.
René ensuite, n'est pas une dame, en passant.
J'ai dû commencer par René. Excuse-moi, je regardais Julie. Julie, René, Patrick, Laprise, ainsi que Louis-Joseph Saucy, qui lui travaille avec la chaire écosystème urbain et ainsi qu'avec le Symbiose.
Donc, le groupe Technosciences et Vivants.
Également, sous la direction de Louise Vandelac. Donc, c'est ce qui fait le tour des intervenants qui vont participer. Alors, moi, je vais commencer par une question toute simple. Dans un cadre là, académique, là, c'est quoi ça la responsabilité sociale des entreprises? En deux mots, si ça se peut. Battez-vous pas pour répondre.
Bon. on étudie tous à l'Institut des sciences d'environnement, donc on peut aussi inclure, ce qui est vraiment intéressant, on peut maintenant inclure le terme de responsabilité environnementale des entreprises en même temps que responsabilité sociale. Donc, on peut parler de responsabilité sociale de l'entreprise, en fait, depuis les années 50. Depuis les années 50, il y a des textes qui s'écrivent. Ça a commencé, en fait, avec la responsabilité des dirigeants d'entreprise, avec la responsabilité des entrepreneurs. Depuis ce temps-là, évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de développements en recherche qui se sont faits. Il y a eu des événements qui ont fait que il y a certaines compagnies, plus récemment, qui ont pris une grande conscience de leur responsabilité, que ce soit lorsqu'il y a eu des déversements de pétrole. Dans le cas de ma recherche à moi, dans le cas de la compagnie Shell, il y a eu deux événements majeurs. Il y a eu le coulage d'une plateforme de forage qui a soulevé les foules en Europe du Nord, puis aussi le cas d'un assassinat d'un activiste environnemental au Nigeria qui a fait qu'il y a eu du boycott contre Shell. Ça, c'est les années 90. Bon, c'est depuis ce temps-là, en fait, depuis 87, avec le développement durable, que les entreprises ont été interpellées. Le Global Compact, c'est en 96, je crois, ou en 94. Ce sont des ententes au niveau international qui font que les entreprises sont obligées de s'engager, en fait. On sent que la société demande aux entreprises de s'engager, puis il y en a certaines qui le font. C'est de savoir comment ils le font qui est vraiment intéressant pour nous.
Ben moi, ça serait ma question, justement. Peut-être finir juste sur la définition un peu de c'est quoi la responsabilité sociale.
Je veux dire que surtout la responsabilité sociale de l'entreprise, à mon avis, s'applique principalement aux grandes entreprises, aux entreprises qui ont justement aussi un impact environnemental et un impact social qui est significatif dans leur milieu. Et quand on a fait la présentation de responsabilité sociale de l'entreprise, c'est pas seulement relié au développement durable, mais c'est beaucoup plus large que ça. Si on prend par exemple une grande entreprise comme le Cirque du Soleil, qui a un volet responsabilité sociale de l'entreprise qui est extrêmement développé, qui essaie de s'intégrer dans le milieu, de faire en sorte justement d'aller accrocher les jeunes ou de faire des interventions auprès de la communauté pour différents enjeux.
Donc c'est vraiment reconnaître le rôle des entreprises comme acteurs à part entière d'une société. René, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, parce qu'en fait, la responsabilité sociale de l'entreprise, ça peut aussi être considéré comme un concept. Et à ce titre-là, on peut diviser le concept de RSE, donc responsabilité sociale, en discours. C'est-à-dire qu'il y a des discours de responsabilité sociale qui sont faits par les entreprises. Il y a des pratiques, il y a de plus en plus de normes qui s'appliquent aux entreprises, qui viennent parfois de l'ONU, parfois des gouvernements comme l'Union européenne. Et donc, c'est de plus en plus des politiques aussi. Et je finirai en disant que la responsabilité sociale des entreprises, c'est aussi des acteurs qui se penchent sur les problématiques que Patrick a évoquées, entre autres.
Donc, ça fait un peu le tour, peut-être, de la définition. Si vous permettez, on pourrait peut-être y aller de façon concrète, parce que, mine de rien, là, ça paraît qu'on est à l'école puis que vous avez peut-être un discours un peu académique. J'aimerais ça avoir des exemples de compagnies responsables socialement. Julie, tu parlais du Cirque du Soleil, mais il y a peut-être d'autres exemples qu'on pourrait donner, peut-être plus sur les questions d'environnement. Louis-Joseph?
Ben, avant mes collègues qui sont eux de la chaire économie et humanisme nous donnent des exemples de succès à ce niveau-là. Moi, ce que je voudrais souligner d'abord, c'est que ce qui m'inquiète, c'est que d'après moi, souvent, ce qu'on serait porté à vouloir appeler responsabilité sociale environnementale des entreprises, c'est d'abord, malgré qu'il puisse y avoir des efforts louables de fait, c'est d'abord un effort pour soigner l'image corporative. Et en fait, c'est ça, soigner l'image corporative. Et c'est
une grosse opération de marketing, souvent. Je me souviens des annonces de Shell. Patrick, tu travailles sur Shell. Hey, moi, ils me donnaient des frissons, leurs annonces. Tu voyais une biologiste sur le bord de la rivière qui prenait des échantillons. Nous, on fait notre part pour l'environnement.
Mais il faut faire attention. Je suis tout à fait d'accord avec le point de Louis-Joseph à ce niveau-là, mais que le but soit pour améliorer l'image de l'entreprise, bon, c'est un fait, puis on dévira pas de ça, sauf que s'il y a effectivement des gestes concrets qui sont faits pour améliorer certains aspects, et là, je me fais un peu l'avocat du diable là-dedans, mais s'il y a effectivement des gestes qui sont faits et qui sont intéressants, même si c'est dans le but d'améliorer l'image d'une corporation, est-ce qu'on doit pour le moins dénigrer ce qui est fait?
Oui, si ça cherche à donner l'impression que cette entreprise-là est réellement sociale,
sur
le point environnemental et sociable. Je veux dire, tu sais, ça devient facile de pointer sur une ou deux belles réalisations puis de cacher ce qu'une entreprise peut faire d'absolument écocide.
Le mot! Si vous me permettez, moi, je vais partager quelque chose qui s'est passé cette semaine en montant l'émission, en appelant les différents intervenants. Si vous saviez le nombre de personnes qui m'ont dit « on peut pas l'aborder comme ça parce que je voudrais pas être poursuivi, faut faire attention aux poursuites », au moins 3 ou 4 intervenants m'ont parlé de poursuites en justice, de leur peur de se faire poursuivre, et ça serait quelque chose qui serait intéressant de faire une émission spéciale là-dessus, parce qu'ils ont beau être officiellement responsables socialement ou environnementalement, il faut ta chienne aux environnementalistes puis aux citoyens qui essayent de s'informer puis de s'impliquer.
Es-tu en train de dire qu'on a des risques de poursuites ici à Delirium Environnemental depuis le temps qu'on blasse les compagnies?
Exactement, Nicolas, aie peur.
Il serait temps que vous ouvriez votre courrier.
Retour à Delirium Environnemental. On fait une table ronde. Écoutez, je vais juste vous nommer la personne qui vient de se joindre à nous, qui est Mélanie Lemire. Bonjour Mélanie, ça va bien?
Ça va très bien, bonjour.
Donc, on parle de la responsabilité sociale des entreprises, qui est une chose, si je comprends bien. Si vous voulez, on va élargir un peu le débat en parlant de la réutilisation puis du galvaudage du terme développement durable. Pas simplement par les entreprises, je vais peut-être le mettre dans un contexte d'actualité où est-ce que M. Jean Charest prétend faire du développement durable, ce qui est à mon sens tout à fait rigolo quand après ça, il me parle dans la même phrase de PPP. Mais bon, c'est une autre histoire. Donc, j'aimerais ça savoir ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de cette récupération? C'est intéressant, la nuance que tu mettais, Julie, tout à l'heure, de dire qu'il faut faire attention. Est-ce que c'est louable quand même? T'sais, est-ce que même s'ils se font du capital de sympathie avec ça, c'est quand même bon ce qu'ils font? Donc, c'est un peu là-dessus. J'aimerais ça savoir ce que vous pensez de la récupération du discours environnemental, Patrick Laprise.
Oui, bien, j'ai aimé la façon que René le divisait tout à l'heure en pratique, en discours, ces choses-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise, à la base, a 3 motivations pour entreprendre une démarche ou un discours des pratiques de responsabilité sociale et environnementale. La première, c'est que soit le marché lui fait connaître sa demande, lui fait commercialement, c'est bon pour elle, ou elle juge que c'est bon pour elle de s'embarquer dans une démarche comme ça, parce que ses concurrents l'ont fait, parce qu'elle peut pas, bon, ça on se rapporte à l'image.
Parce que c'est rentable.
C'est ça, c'est l'argent, le profit. Ensuite, l'autre affaire, c'est la réglementation. Ça, c'est le côté qui est le plus épeurant pour les compagnies. En fait, c'est que les gouvernements ont encore le pouvoir, on ne peut pas leur enlever ça pour l'instant, d'imposer des lois, des règlements, des réglementations à des entreprises. Puis c'est là que ça devient intéressant parce que c'est de ça que les entreprises ont le plus peur et c'est ça qu'elles essaient d'éviter, en fait. Et c'est là qu'embarque le concept de développement durable et de responsabilité sociale en tant que concept. c'est très facile de se dire, d'utiliser ça comme un pare-feu, un peu comme un bouclier, mm-hmm. pour dire non, on fait tout, on prend des décisions volontaires, en fait, on est responsable, on prend soin de notre clientèle, mais mettez-vous pas réglementation parce que ça va nous coûter trop cher, on sera plus concurrentiel.
Et le troisième point, t'as dit qu'il y avait trois points, t'en as nommé deux.
Ce sont des motivations plus personnelles, en fait. Puis ça a plus rapport avec les PME. Je suis pas tout à fait d'accord avec Julie par rapport aux grandes corporations. Il y a des PME, puis ça représente un grand secteur de l'économie, puis il y a des gens qui ont plein pouvoir sur ces compagnies-là, puis souvent parce que leurs enfants habitent à côté ou vivent, on va à l'école à côté d'un site d'enfouissement, des choses comme ça, ils vont prendre des décisions de responsabilité sociale et environnementale.
Donc, trois sources de motivation, finalement.
Moi, ce que je trouve frappant, c'est un exemple qui est sorti dernièrement dans les dernières années, c'est la question du commerce équitable, puis on se retrouve de plus en plus à faire la promotion de ce commerce équitable-là, puis on se questionne sur la validité de la certification. On a des spécialistes de certification ici, mais vous voyez Kraft qui est en train de proposer des produits certifiés équitables qui devraient sortir en 2005. Je ne sais pas si on peut nommer des exemples comme ça.
Attention,
vous voyez Starbucks qui commence à vouloir vendre du café équitable, en fait, qui ont déjà commencé.
Peut-être.
C'est là qu'on se questionne à quel point... oui, vas-y, excuse-moi.
Mais je pense que c'est une piste vraiment importante, puis la façon que j'articulerais la question, peut-être pour cibler un peu, c'est on sait que la certification, les gens qui se certifient équitable ou biologique ou gentil ou beau, ou en tout cas n'importe quelle certification, engagent des frais pour les producteurs. Moi, je voudrais savoir, à votre avis, là, est-ce que c'est normal que ce soit les gentils qui payent, puis que les gros écœurants, eux autres, il n'y a pas besoin de mettre une étiquette « gros écœurant ». Peut-être un peu grossier comme façon de poser la question, mais c'est ça quand même, là.
En fait, tu as les gentils qui payent, tu as les producteurs qui payent leur certification, mais tu as aussi les consommateurs, justement. Et puis, dans le fond, tu as raison, à deux niveaux. Les gentils, ceux qui sont conscientisés, vont payer. Mais, je veux dire... Je pense que le débat, on peut pas trancher ça comme ça. C'est pas parce que le commerce équitable est récupéré par les grandes entreprises que le commerce équitable, c'est pas bon. Au contraire. Là, ce qu'il faut déterminer, c'est qu'est-ce qui est vraiment du commerce équitable. Et là, le rôle des gouvernements embarque. Le rôle des gouvernements, c'est pas de dire qui est équitable, mais qu'est-ce que le commerce équitable? Donc, mm-hmm. avec une norme comme ça, on pourrait au moins déterminer qui a le droit de se dire équitable. C'est un peu ce qui arrive avec la certification biologique. Les gouvernements ont légiféré sur la définition de l'agriculture biologique. Et maintenant, on sait par la loi qu'est-ce que l'agriculture biologique. Le problème, c'est qu'il y a des gouvernements plus laxistes, comme aux États-Unis, où l'agriculture biologique, ça devient un peu n'importe quoi.
Moi, j'aimerais faire un pont parce qu'on parle de certification, on parlait de responsabilité sociale de l'entreprise, là, 2 minutes. Puis, il y a un lien direct qui se fait, puis... je trouve que c'est important de spécifier que souvent les entreprises qui, justement, pour se doter d'une image corporative, une belle image, peu importe, se certifient. Et après ça, justement, on fait appel, puis pas seulement les entreprises, mais entre autres des groupes environnementaux ou d'autres groupes de pression font appel aux consommateurs et pour dire, bon, ben achetez des produits certifiés, faites un geste responsable, achetez... Bon, peu importe un produit qui respecte tel critère. Et là, tout d'un coup, on devient un peu paradoxal dans notre discours parce qu'on dit non, la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est bon, peu importe pas crédible ou appelez-le comme on veut. Puis en même temps, ben on se fait pousser à acheter des produits certifiés.
Mmh. Une belle contradiction qui soulève là.
Moi, je nuancerais peut-être encore un peu plus en disant que c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont intéressants de ce côté-là. Puis moi, en tout cas, personnellement, je serais loin de condamner en bloc tout ce qui est certification. Mais de l'autre côté non plus, c'est évident que je suis loin de le voir comme une panacée parce que selon moi, ça reste, ça demeure de l'ordre de la solution économique. Puis ça, je trouve ça dangereux de se camper seulement dans une vision économique puis économiciste parce que je trouve que souvent ça légitimise en fait notre dépolitisation. Puis c'est très important. Il faut absolument s'impliquer sur le plan politique. Puis j'ai envie de faire le pont avec le. On parlait de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Ben, il n'y a pas que certaines grosses corporations qui ont envie de se draper dans le discours environnementaliste. Il y a aussi le Parti libéral.
Ben, justement, merci parce que tu m'ouvres la porte pour ma prochaine question qui va être la dernière. Et j'y tiens à ma question. Alors, politiciens, politiciennes qui nous écoutez, prenez des notes, crayon, papier, tout le monde. Je vais demander à ces cerveaux autour de la table de répondre à la question suivante et je pense que ça va vous être utile, politiciens, politiciennes et particulièrement les gens du Parti libéral québécois. Alors, ma question est la suivante. Quelles mesures concrètes et immédiates le gouvernement du Québec devrait-il mettre en place en priorité pour assurer un réel développement durable au Québec? Mesures concrètes et prioritaires.
Nouvelles élections, peut-être?
Bon, mais mettons, OK, celle-là, mais après, y en aurait-il d'autres?
Moi, je peux me proposer.
Ben oui, Nicolas Mainville.
Je vais lancer le bal. En fait, on mentionnait la question du transport en commun tantôt quand on considère que 38% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du secteur des transports au Québec. Il se faut pour un gouvernement de financer plus que 10% du transport en commun à Montréal. C'est ridicule. On se retrouve à 45% du transport en commun qui est financé autre que les utilisateurs. Donc, il y a le municipal et le provincial qui donnent l'argent. Ben le provincial donne seulement 10% en ce moment. Et puis, peut-être que le fédéral pourrait rentrer aussi par la même cause. Mais écoutez, c'est là que ça se passe. Il faut aller chercher ces émissions de gaz à effet de serre. Là.
Si je peux me permettre, il y a plusieurs cas précis qu'on pourrait faire. On pourrait parler de l'exploration gazière pétrolière dans le fleuve.
Prends-en un exemple puis donne-moi une mesure.
Mon exemple, c'est le futur plan de développement durable qui sort demain. Ce plan de développement durable devrait être envoyé en consultation du Bureau d'audience publique sur l'environnement pour que l'ensemble des intervenants puissent parler puis qu'on ait une vision globale, en général, qui soit appliquée et qu'on n'aille pas par du cas par cas.
Patrick Laprise?
Ben, ok. Mais pour exprimer ce que moi je vois dans mon domaine, on pourrait faire comme en France, une loi sur le reporting social et environnemental. C'est-à-dire que les entreprises, à partir d'un certain nombre d'employés, seraient forcées de remettre un rapport de leur performance environnementale carrément. Autant qu'ils font un rapport financier, ils ont des comptables, ben, des gens comme nous, ben, ils vont en avoir qui vont sortir, qui vont être prêts à faire de la comptabilité environnementale, puis on va les juger là-dessus.
Louis-Joseph?
Sofiane, il faut que je t'avoue que ta question me désarçonne un peu parce que là, on parle du Parti libéral du Québec avec son bilan.
Non, j'ai pas dit le Parti libéral, j'ai dit le gouvernement du Québec, peu importe qui est le gouvernement du Québec.
Ah, ok, parce que sinon, moi, j'allais dire qu'il faudrait dépolariser leur cerveau pour que tout ce qu'ils envisageaient, pour qu'ils fassent exactement un virage à 180 degrés. Parce que autant sur le plan social qu'environnemental.
Merci. Ben, commentaire, mais mesure intéressante, mais je suis pas sûr que c'est tout à fait au point comme technique. On pourrait peut-être abréger une couple de
pas très loin de ce que pense Joseph, en fait, mais je pense que si le gouvernement du Québec s'assied avec Hydro-Québec pour faire du développement durable, ça marche pas. Pour avoir du développement durable, ça prend de la démocratie. Il faut que les gens participent aux solutions. Il faut que toutes les communautés soient sollicitées, tous les acteurs. C'est ça ma conclusion.
Ben, je pense que c'est une belle idée. C'est déjà ce qui va compléter parce que le temps file à une vitesse incroyable. Moi, je vous donne quand même ma mesure. Ma mesure prioritaire, ça serait doter le Québec d'une constitution dans laquelle on définit, on reconnaît et on accepte les valeurs de développement durable comme étant la logique de gouvernance centrale de l'ensemble d'un pays fort et en santé.
Merci.
C'est déjà la fin de Délirium environnemental, mais avant de s'en aller complètement, on se fait le plaisir de faire les coups de cœur, coups de masse et le calendrier cette semaine. Messieurs, mesdames, pour une fois, lâchez-vous lousse, comme qu'on dit. Coup de cœur, coup de masse ou au calendrier?
Moi, je peux y aller. Ben. Vas-y, Julie, vas-y.
Non, mais c'est parce qu'on peut frapper en premier parce qu'on est des femmes.
Oui, oh. Ouais, toujours.
OK. Alors, coup de masse... Ben, je sais que c'est sûrement pas le seul coup de masse que probablement d'autres personnes l'avaient en tête, mais j'en profite, étant la première, pour l'augmentation des frais de la STM.
Gros coup de masse, vraiment. Nicolas Mainville, coup de masse?
Ben, je m'en vais du côté international, un coup de cœur, une coalition d'écologistes, en fait, les Amis de la Terre, qui ont rassemblé beaucoup de monde pour protéger trois milieux extrêmement importants, le top du Mont Everest qui est en train de fondre, on parle des coraux au Brésil et les glaciers au Pérou qui sont... proposé d'être sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. En fait, on a fait des demandes officielles pour que ça soit accepté et ce sera les premières réserves de l'UNESCO qui seraient considérées comme menacées à cause des changements climatiques directement. Donc, félicitations aux Amis de la Terre.
Eh bien, je peux pas passer à côté. Il faut absolument que je donne un coup de cœur à la coalition Québec vers Kyoto. Ça s'est concrétisé, tout le travail qu'ils ont fait. Le survoi, ça n'existe plus. C'est officiel. Tout le monde s'est rétracté. Bravo cette coalition-là. Allez voir leur site web. Encouragez-les encore. Et, ben, écoutez, je fais quand même un coup de cœur au gouvernement libéral. Étonnant, mais si cette idée de faire du développement durable devient vraiment centrale et vous y mettez des efforts, entre autres par un refinancement du ministère de l'Environnement, eh bien, ce sera un coup de cœur. Sinon, ben, ce sera un coup de masse pour faire encore une fois un beau paravent qui s'appelle Développement durable avec un lien à l'intérieur.
Moi, j'ai un beau petit coup de cœur pour le gouvernement canadien qui veut éliminer les gras trans de l'alimentation canadienne. Bravo.
Ça, c'est l'huile hydrogénée, comme le shortening de ces affaires-là.
Oui, mais mon petit coup de masse, c'est qu'on sait depuis longtemps que les gras trans sont toxiques pour la santé. Qu'est-ce qu'on attend pour les OGM, notamment, ou les métaux ou le DDT qui sont présents dans l'alimentation?
Bonne question. Beaucoup de cœur et beaucoup de masse à l'immobilisme constant de nos gouvernements.
Salutations à Jack Layton qui a eu cette initiative pour la motion au fédéral.
Ah, bravo, Jack.
Moi, c'est
Jack,
un calendrier en retard. Puis un coup de cœur, c'est le symposium sur les toits verts qui s'est tenu hier toute la journée. C'était magnifique, les idées qui sont sorties de là. J'ai eu un compte rendu précis. Puis bon, on voit que ça a remonté jusqu'à 74. Il y a eu des toits verts dans le coin de l'Université McGill à cette époque-là. Espérons que cette fois-ci, c'est pour de bon. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour les maisons, pour l'énergie. Ça filtre l'eau de pluie qui tombe dans les villes et ça permet de filtrer l'eau avant qu'elle arrive aux égouts.
Et c'est beau dans les yeux. Coup de cœur, coup de masse, on sait que la consommation, nos modes de consommation excessifs sont un des plus grands problèmes, si ce n'est le plus grand problème. Étienne, qu'on n'entend jamais enfin la voix derrière l'image. T'as un coup de cœur à faire.
Bonjour, oui, un petit coup de cœur. En fait, j'invite tout le monde vendredi prochain, donc ce vendredi 26 novembre, des millions de personnes à travers le monde, prendre une pause de votre consommation. C'est le Buy Nothing Day, ou en français, la journée sans achat. Donc, c'est la journée où se vend le plus de choses aux États-Unis, la plus grande journée de consommation. Donc, on en profite pour prendre une pause et réfléchir un peu à la surconsommation parce que 20% de la planète consomme 80% des ressources.
Eh bien, toujours cette même journée, vendredi le 26 novembre, la Fondation Rivière a 2 ans. Si vous connaissez pas la Fondation Rivière, allez voir sur leur site web en passant par le nôtre qui est au www.radiodelirium.net. Ce que c'est vendredi, c'est une soirée rencontre. Vous devenez membre, 25$, vous devenez membre, une soirée avec plein de gens, je vous passe les gens, sinon volant des riz, du puits, blabla.
Plein de gens passionnants, des artistes engagés du Québec, on s'en doute. Un autre groupe environnemental qui a su aller chercher l'appui des artistes au Québec, eh bien c'est Au Secours qui a fait un travail fabuleux, qui est la plus grande coalition. Coalition. Oh ouais, le plus grand nombre de membres, donc n'hésitez pas, vous pouvez vous joindre à ça si vous aimez suivre, vous aimez ça quand il y a beaucoup de monde, vous allez être sûrs avec eux autres. Le 4 décembre, ils tiennent un événement pour contrer les PPP, sensibiliser un peu les gens, puis surtout se mettre ensemble pour y réfléchir, donc ça se tient le 4 décembre, ce sera sur le site d'Au Secours, mais également sur notre site à nous. J'en profite aussi pour faire un gros coup de cœur à tous ces groupes environnementaux qui tous les jours travaillent d'arrache-pied à veiller à la conservation de l'environnement, à la protection de l'environnement, à faire avancer les idées dans le domaine de l'environnement au Québec et du développement durable. Tous ceux qui ont accepté de nous répondre aujourd'hui à court délai, vraiment un gros merci. Merci de nous avoir répondu, mais surtout merci de nous tenir au courant et d'avoir à l'œil tous ces enjeux que vous gardez à l'œil toujours, tout le temps. Merci.
On ne peut pas passer à côté d'un coup de masse. Oh. S'il vous plaît, faut que je fasse un coup de masse à la députée de la Pinière, Madame Ouda Pépin, qui s'est carrément caché la tête dans le sable. Elle qui prônait l'étiquetage obligatoire des OGM la semaine passée. Eh bien, elle s'est tournée vers Mme Françoise Gauthier, ministre de l'Agriculture, en disant « Ben, allons-y, on va faire semblant qu'on n'est pas capable de s'étiqueter, point de vue OGM. » Un blâme, gros coup de masse.
Ben, Nicolas, pour en ajouter, dans le document de travail du Congrès du Parti libéral du Québec qu'il y avait cette semaine, sous la section développement durable, on dit justement que pour l'agriculture du Québec, ce qu'on entrevoit, et je cite, tout en garantissant une alimentation saine et sécuritaire, les biotechnologies deviendront des outils importants du développement de l'agriculture au Québec, mais aussi dans le secteur des pêches.
Je pense qu'ils vont se mériter le coup de masse pour toutes les mauvaises décisions, mais pour en plus avoir eu le culot d'écrire ça noir sur blanc dans un document de travail, c'est écœurant. Il y a une manifestation qui va avoir lieu à Montréal. Patrick, c'est quand et pourquoi?
Ben, vous souvenez, les 200 000 personnes à Montréal, c'était le collectif Échec à la guerre qui l'avait organisé, cette manifestation. Ils en organisent une autre mardi le 30 novembre 2004 à 17h30 au carré Dominion. évidemment, c'est
pas pour rien, hein.
C'est pas pour rien, et c'est Monsieur Bush en personne qui a décrié pour
cette.
Ben, le petit gars des États-Unis, là, exactement. Et évidemment, c'est parce que sa gestion environnementale est aussi mauvaise que le reste. Donc, je vous invite à y aller. 17h30, carré Dominion, coin Peel, René Lévesque, mardi le 30 novembre à 17h30.
Il y en a deux autres qui s'organisent à Ottawa aussi.
Pour souligner la présence de Monsieur Bush au Canada, il sera en terre canadienne.
Pour la première fois en 4 ans, mesdames et messieurs.
Wow! Ben, c'est bon, après, il va savoir c'est où.
Il est au sommet des Amériques à Québec, par exemple.
Ah ouais, ben ça.
On n'avait pas pu le voir.
Non, mais c'était pas la terre canadienne, ça.
Hey, c'est déjà ce qui va compléter Delirium Environnemental, une émission spéciale où est-ce qu'on a voulu faire notre part pour le défi des 1000 de CIBL. À tous ceux qui ont répondu à nos questions, merci beaucoup. À tous ceux qui sont en studio, Patrick Laprise, Louis-Joseph Saussier, Mélanie Lemire, Julie Morin, René Audet. Et à l'équipe magique stable de Delirium Environnemental, Nicolas Mainville, Patrick Bonin, Étienne Côté-Paluc, Hugo Lachapelle et Nicolas Milo qui n'étaient pas là, mais Hugo Lachapelle était là en parole. Tous ceux qui nous ont répondu, les intervenants. Moi, c'était Sofiane Legendre et je vous dis en terminant que vous pouvez trouver toutes les informations et réécouter l'émission si vous avez manqué des petits bouts sur notre site internet qui se trouve au www.radiodelirium.net pour avoir une multitude d'informations et des liens vers les groupes environnementaux qui font la différence au Québec.
Boycotter Maxwell House.
Comme ça, ça m'amène.